Looking for some inspiration for your next holiday? How about visiting an authentic tea house in China, going on a safari in South Africa, or visiting the ancient ruins of Mexico? Wherever you choose, KLM will take you there. Find great value fares via Amsterdam at klm.com.
Vous écoutez
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième.
Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Ils sont là, Florent Gautre, Daniel Riolo et Jean Baumel. Villas-Boas, on programme tout de suite. Bélabor, un point sur le match Lens-Auxerre de Ligue 2 Djibo.
L'heure de jeu, pile poil, 0-0 pour l'instant. Le public de Vollard qui pousse parce que les Lensois montrent des choses intéressantes. Il y a eu un coup franc, mais mal tiré par Robaille et les changements à venir. Donc 0-0 pour l'instant entre Lens et Auxerre. Globalement, c'est logique.
Jingle, Florent Gautre, tout de suite.
Monsieur Sarkozy, vous pouvez nous dire un petit mot. La voiture s'éloigne, il va essayer de remonter sur ma moto.
Ça s'appelle un sparadrap, ça.
C'est quand même
aujourd'hui un petit truc. Ad hoc.
Oui. Alors, tu voulais parler de Villas-Boas. Nous t'écoutons.
Bah oui, je voulais parler de Villas-Boas parce que cet été, je crois que c'est le Fosséen qui m'avait appelé pour parler de l'OM en me demandant ce que j'en pensais, comment ça allait se passer. J'étais un peu sceptique sur l'effectif, mais je leur ai dit, écoute, je suis déjà séduit par l'arrivée de Villas-Boas, mais on sait que dans son parcours, il a connu aussi pas mal d'échecs. Donc on se demandait un peu où il en était. Quelque part, c'est un peu le moment de la relance pour lui aussi dans sa carrière. Celui qu'on a surnommé, vous savez, The Special Two, ce qui venait après Mourinho, il avait été son adjoint. Puis après, on a dit le Special Rien du Tout, il paraît, d'ailleurs, parce que ça marchait pas. Mais voilà, donc en gros, Villas-Boas, c'est un gars que j'aimais beaucoup, que j'attendais, dont j'espérais beaucoup. Et ce qui s'est passé dès le départ, c'est que je trouve que là où c'est très fort, c'est qu'il règle plein de problèmes en très peu de temps. Il est l'anti-Garcia, je vais développer tout à l'heure, notamment sur la communication, mais pas que.
Personne qui parle normalement,
ouais,
Garcia.
C'est pas faux, mais
il a repris son cirque, Garcia, sur si c'était passé ça, machin. Ouais. Excellent. Ouais. Pardon, Flo.
Donc en fait, il est l'anti-Garcia, mais en plus, il permet un truc miraculeux, c'est qu'il se met à protéger, de par sa surface médiatique, héros, qui prenait des flèches de partout, parce que justement, il s'imposait, il s'obligeait médiatiquement à faire des sorties. En fait, McCourt, quand ils l'ont pris, Villas-Boas avait dit, je veux qu'il revitalise le projet. C'était les mots de McCourt. Et je trouvais ça assez juste, parce que ce projet, je parle pas du nom, hein, de l'OM Champions Project, mais du nouveau projet de l'OM, c'est vrai que ce projet, il a été dévitalisé par Garcia et par Héro, dans un double problème sportif et de communication. Et Villas-Boas, sur le premier sujet, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Sur le recrutement, on le sait, il n'a pas pu faire partir les gros salaires. Mais sur les deux seuls recrues qu'il a pris, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir longtemps, il a pris Alvaro et Benedetto déjà. Enfin, c'est des joueurs qu'il voulait. Et là, je pense déjà saisi l'ADN et l'âme du club sur ce choix-là. Puis alors après, j'ai noté ce qu'il a fait sur la com, puisqu'aujourd'hui, moi, je pense que l'entraîneur, c'est avant tout donc un manager, au sens qu'il manage des gens. Et donc, la com interne et externe est capitale. Il parle français déjà. Il parle français. Il dit qu'il l'a appris juste à l'école pendant 3 ans. Il parle un français parfait. On avait parlé au moment du changement de Silvinho. Je pense que c'est quand même radical et important pour tout. Et c'est le cas. Il a été très clair sur le mercato en disant on va pas recruter cet hiver. Vous faites pas d'argent. On n'a pas d'argent. Il a pas joué un jeu à double détente. En fait, il a un truc très simple en management et en communication, c'est qu'il dit la vérité. Par exemple, ils ont demandé de qui il était supporter. Il a pas dit je suis supporter de l'OM. Il a dit non, moi je suis supporter de Porto. Historiquement. Mais bon, je suis coach de l'OM, donc il n'y a pas de problème. Sur le Classico, on va sans doute y revenir, sa phrase qu'il a dit tout à l'heure,
revenir, en effet.
Très habile, effectivement, en disant, ouais, bon, vous savez, c'est pas un match important, c'est une autre ligue, le PSG, donc on va voir ce qu'on en fait. Donc il enlève une pression énorme à ses joueurs, il dit quelque part une vérité aussi, d'ailleurs, du championnat, et puis surtout, il permet de préparer ce match un peu plus sereinement. Sur le management avec les joueurs, ce qu'il dit d'Amavi, quand Amavi est sifflé, qu'il dit, vous tuez un joueur en faisant ça, il s'adresse quand même aux supporters de l'OM. Et même si on sait tous qu'Amavi n'est pas bon, lui, c'est un discours aussi qui vaut en interne, où les joueurs disent, disons, le coach, normal. Il est courageux, il défend un des nôtres, et d'ailleurs, Mandanda lui a emboîté le pas. Sur Payet et le péno que Payet veut offrir à Benedetto, il dit sèchement en conférence de presse, ce genre de truc, ça ne doit pas se reproduire. Et hier, d'ailleurs, c'est Strootman qui a tiré. Donc en fait, en com, en management, et évidemment dans ses choix, il a changé de tactique au milieu du match face à Rennes. Bon, il n'a pas des solutions énormes, surtout quand il a des absents. Mais je trouve que la partie, là, pour revenir plus concrètement et factuellement sur ce qui vient de se passer sportivement, il a su changer de tactique en cours de match face à Rennes, même si ce n'est pas toujours flamboyant. Il a su reconnaître que c'est par sa faute qu'il avait perdu contre Reims. Il l'a dit dès la fin du match. Enfin, en partie par sa faute. Et il a bien passé la période, la sale période, là où il était privé de Camara, Payet et Alvaro. Il va récupérer Payet, il va récupérer peut-être même Alvaro pour le mercato. Donc, je pense effectivement que Villas-Boas, c'est une bonne pioche pour la Ligue 1 et c'est une très bonne pioche pour l'OM, même si il manque certainement un ou deux ou trois joueurs pour pouvoir aller plus haut.
Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Florent ?
Ah oui, absolument. Et vu le classement et les caprices de notre Ligue 1, Marseille peut largement être sur le podium à la fin de la saison. Et je pense que ça doit suffire à satisfaire les Marseillais, qui certes ont passé une sale soirée et ont vu leur équipe livrer un mauvais match. Mais comme je le disais hier soir, sur Marseille, au même titre que beaucoup d'autres équipes, de toute façon, doit se contenter du résultat. Parce qu'on n'est jamais dans la continuité, on est toujours dans la construction, déconstruction, crise. Et on est... Cette instabilité chronique dans tous les clubs fait que de toute façon, il n'y a rien qui peut s'installer durablement si ce n'est la satisfaction d'avoir un, deux, trois bons résultats de suite. Donc, ça va tâtonner. La période qui a été difficile récemment pour l'OM, on l'avait quasiment tous anticipé et fallait pas être un génie pour l'anticiper parce que à partir du moment où on t'enlevait un joueur offensif comme Payet, on t'enlevait Alvaro qui était en train de s'installer en défense, Camara, enfin bref, les suites du match du fameux match de Dijon. Bon finalement Marseille a effectivement payé ce match-là sur les matchs qu'on suivit. Mais au final, juste en battant Strasbourg au terme d'un match pourri, il se repositionne au classement avec, comme je le disais hier, je vais le dire autrement, pas deux équipes de blaireaux devant, mais des petites équipes qui, en gros, n'ont rien à faire là et qui ne devraient pas y rester. Et donc, ça devrait permettre à l'OM de rapidement pouvoir prétendre à plus haut. Ceci dit, encore une fois, j'espère que les supporters pouvaient comprendre que ça n'est rien d'offensant par rapport à Reims, ni à Nantes, et ni même à Angers, qui doit être la troisième équipe devant.
Nicolas est là, supporter marseillais. Salut Nicolas.
Salut, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde.
Salut. Nicolas, d'accord avec Florent sur Villas-Boas?
Ouais, moi je suis d'accord avec lui parce que Villas-Boas c'est enfin un discours frais et honnête quoi, sans langue de bois, et c'est pas quelqu'un qui essaye de nous embobiner avec des discours un peu tout fait, et enfin c'est complètement l'inverse de Garcia en fait, c'est-à-dire que moi il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est les dernières années, enfin les derniers mois avec Garcia, et d'ailleurs il a recommencé avec Lyon en demandant le soutien du public. Et j'ai horreur qu'on demande le soutien du public. Je pense que, d'ailleurs, moi, ce qui m'avait plu avec Bielsa surtout, c'est que je pense que c'est la manière de jouer de l'équipe qui doit amener le public avec lui. Et avec Bielsa, c'était le cas. Il demandait à ses joueurs de jouer avec courage et dépassement. Et là, c'est ce que je remarque, moi, avec Villas-Boas. C'est-à-dire que son équipe joue avec courage, se dépasse sur le terrain, alors avec les qualités et défauts qu'on leur connaît. Mais on le voit sur le terrain. C'est-à-dire qu'hier, on a quand même vu des joueurs qui se sont dépouillés sur le terrain, qui ont essayé de gagner, ils ont gagné. Mais sur les trois matchs précédemment, ça a été le cas, même en ne gagnant pas. Et c'est ce qui me faisait plaisir et c'est ce qui m'a donné espoir, en fait.
Alors,
redonner espoir.
Vu que tu es conquis par Villas-Boas également, on va l'écouter maintenant parce qu'il parle donc du fameux PSG-OM de dimanche prochain. Et puis derrière, on va voir ce que chacun en pense de sa stratégie, en l'occurrence, pour aborder ce match. On écoute.
Maintenant vient un match totalement différent. Un match que tu joues contre une équipe qui n'est pas de cette ligue, dans mon opinion, pour les investissements qu'ils ont fait pendant les années. On va essayer de jouer le match pour le match. Mais n'est pas un match que compte trop pour moi. Cette Paris Saint-Germain, OM Paris Saint-Germain, pour moi, c'est essayer de faire quelque chose. On a un rêve, évidemment, de gagner, mais c'est une équipe de notre ligue. Cette Classico a été jouée dans le passé.
Ah! En gros, il balaye le truc. Voilà, c'est un match pour moi qui n'a pas trop d'importance. Ce Classico a été joué dans le passé.
C'est un discours qui peut ne pas plaire parce que t'as toujours envie de le gagner, évidemment, et j'ai des supporters de Marseille en rêve, forcément, mais je crois que la plupart des supporters de l'OM sont également très lucides et savent que ça peut effectivement relevé de l'exploit. Après tout, Rennes cette année a battu le PSG. Ils perdent toujours un ou deux matchs par an, le PSG. Bon, là, ils en ont déjà perdu deux. Je ne sais pas s'ils en perdront un troisième. Mais il a raison. Voilà, le PSG, on le sait, c'est très lucide, c'est hyper réaliste son discours. C'est pas une équipe de la même ligue. Donc,
c'est réaliste et tactique. Parce qu'en fait, il enlève, parce ouais. qu'il sait qu'il peut pas prendre 6-0 contre ouais. le PSG non plus. C'est une équipe d'une autre ligue, mais t'as pas le droit, quand t'es à Marseille, de prendre une volée. Donc quelque part, ouais. c'est tactique, parce qu'il va, il dit une réalité. Factuellement, comme tu le dis, tu peux pas dire, il dit des conneries.
Mais
d'un côté, il enlève une pression pour dire, les gars, entre nous, là, entre quatre jeux, j'aurais dit ça, la presse. Mais on va essayer de faire ce qu'a fait Rennes et ce qu'a fait Reims. On a des moyens, on récupère des joueurs et on va essayer de le faire. Donc, je trouve que là aussi, c'est malin. Après, effectivement, il faut pas. C'est là où la com est intéressante et où je trouve qu'il la manie bien. C'est que s'il avait fait, s'il était allé trop loin, il aurait dit non, ce match m'intéresse pas, je m'en fous.
Quand même, il suffit que tu dises, oui, on a notre chance, on va faire quelque chose et tout, et ça tombe dans l'oreille des joueurs du PSG. Il fait attends, qu'est-ce qu'il va faire lui, bim, et il colle une tarte.
Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? Bien joué de sa part.
Moi, je connais ce discours. En fait, il dit ce qu'il pense. En fait, et comme il le fait depuis le début, hein, quand on lui pose des questions, il répond avec sincérité. Et là, il dit que c'est vrai qu'ils sont au-dessus de nous et que dans son tableau de marque, il a pas coché ce match comme une victoire impérative. Et il enlève un peu de pression à ses joueurs parce qu'on sait qu'à chaque fois, ces matchs-là sont frustrants. Parce que ces matchs-là, on peut les dominer pendant 80 minutes et tout perdre pendant les 10 dernières minutes. Donc ouais,
il a les matchs contre le PSG, l'OM, on n'a pas dominé des matchs sur les dernières années quand même.
Ce que j'espère sur ce match, c'est qu'il restera sur ses principes comme depuis le début. Par exemple, l'exemple à Lyon, Silvinho, il a complètement mis ses principes de côté au bout des mois. Et c'est ce qui me plaît chez lui, c'est que avec un effectif, avec des jeunes, qu'ils ont quand même joué le maintien en CFA l'année dernière, il les fait rentrer et il arrive à gagner quand même des matchs. C'est vraiment un message pour toute la Ligue 1 quand même. C'est rare des coachs qui sont capables de faire ça aujourd'hui en France. Hein,
après, ce genre de risque-là. On est d'accord que pour qu'ils puissent éventuellement travailler sur un éventuel exploit où il faut un effectif, enfin une équipe au complet. Il a pas son équipe au complet. Alors il peut récupérer Alvaro, mais on rappelle quand même qu'il manque Thauvin dans cette équipe. Enfin, il a pas l'équipe qu'il devrait avoir. Donc c'est quand même. Tu pars avec des handicaps, hein, parce qu'on est d'accord quand même. C'est que le PSG, si le PSG joue à fond. Et à bloc, comme on l'a vu sur certains matchs cette saison, normalement, OM ou pas OM, classico ou pas, ça passera pas. Hein. Surtout que c'est au parc.
Nicolas, merci en tout cas. Salut à toi.
Merci à vous.
Salut.
À bientôt. Bonne soirée. À bientôt dans l'after. On passe à la Ligue des Champions, si vous le voulez bien. Les infos PSG avant le match de demain face à Bruges. C'est Loïc Tanzi qui est sur place, qui est comme d'habitude à enquêter. Et on a une idée de la compo de départ. Pour jouer en Belgique demain, Meunier sera titulaire face à son ancien club. Navas dans les buts, bien sûr. Donc pour compléter la défense, Silva, Kimpembe dans l'axe, donc Bernat et Meunier sur les côtés. Au milieu, Marquinhos, Verratti, Herrera, et devant, a priori, Di Maria, Mbappé. Attention sur Mbappé, Tourelle a dit aujourd'hui il n'est pas prêt à jouer 90 minutes, donc on peut s'attendre à ce qu'il sorte peut-être à la mi-temps ou à la 60e, à voir.
Le 9.
Et le 9, Cavani. Sur les dernières infos. Voilà.
Ça ferait du bien de le revoir titulaire.
Ouais. C'est une belle info.
Ouais.
C'est voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une très belle équipe. Et effectivement, revoir Cavani.
Pareil, il peut être qualifié demain. Hein. Troisième match.
Oui, bien sûr.
Ça peut être réglé en fonction de ce qui se passe ailleurs demain soir.
Non, je regarde ce milieu de terrain avec gourmandise. Parce que je me dis que Marquinhos, Herrera, Verratti, dans les circonstances actuelles.
Herrera, très bien d'ailleurs contre Nice.
Ouais,
il joue juste. C'est un mec qui peut donner même encore plus.
Non, parce que c'est marrant, c'est qu'on a beaucoup parlé du 6 qui manquait depuis Thiago Motta sur plusieurs saisons, on va dire même. Et non seulement il y a le remplacement de Marquinhos qui n'était pas une évidence pour tout le monde. Tu as un Verratti différent, pas blessé. Quand même physiquement mieux préparé, et effectivement Herrera qui jouait pas, on sait pas pour toi, enfin on s'étonnait parce que quand tu le vois là, tu vois qu'il y a de la qualité. Là t'as résolu peut-être l'un des problèmes les plus compliqués, parce que le talent devant il y en a plein. Les Di Maria, Mbappé, Cavani, Icardi peuvent marquer des buts, donc c'est pas mal.
Bon, voilà sur le PSG. Si vous avez rien à rajouter, on passe. Je voulais vous donner des infos quand
Bruges,
même.
C'est pas mal, hein, aussi.
Pardon.
Oui.
Bruges,
ah bah, c'est une équipe c'est intéressant. On écarte comme ça dans
ouais, ouais, demain, mais c'est quand même.
Les leaders du championnat belge.
Petite sensation, ce qu'ils ont fait à Madrid, hein, déjà.
Ouais, exactement.
Exactement, ils ont tenu le coup. Alors, vous dire par ailleurs qu'à Lyon, Lyon qui se déplace à Lisbonne après-demain hein, pour jouer contre Benfica, retour officiel de Dubois et de Depay pour jouer contre Benfica. Donc voilà, c'est important de le préciser évidemment. Ils étaient tous les deux blessés à une cuisse et donc ils n'ont pas joué contre Dijon. Et puis des nouvelles de Koscielny. Alors moi, Koscielny, quand il est sorti, qu'il commençait à se tenir le tendon d'Achille, moi j'ai eu peur, hein, parce que on sait que c'est son point faible, qu'il a été opéré, qu'il avait raté la Coupe du Monde à cause de ça et tout.
Et lui aussi a eu peur.
Et en fait, contusion osseuse au niveau du péroné. Donc c'est assez étonnant parce qu'en fait,
il se tenait le talon, quoi.
Voilà, exactement.
C'est bizarre. Hein.
Donc alors bon, voilà, c'est le coup peut-être qui a fait ça. Enfin,
je suis pas assez calé.
Donc c'est moins grave que ce qu'on aurait pu heureusement.
J'ai dû zapper quelques cours de sciences nat là.
Oui, effectivement. Péroné, c'est pas tout à fait la Whistonnet.
Quand je l'ai vu sortir, limite en larmes. Tu regardes sa deuxième sortie, je me suis dit oula.
Savoir que le Koscielny,
c'est le deuxième.
Un dossier Florent Gautreau.
La deuxième idole après Olivier Giroud.
Et d'ailleurs, tiens, je parle de ça là, de tes dossiers, oui. Ça me fait penser à un truc. Mercato d'hiver.
Tu parles à Tours ou
Non, pas à Tours.
Ah non, oh non mais je sais pas, mes dossiers, vu qu'on était sur Koscielny.
Tours, t'es bien d'accord que malheureusement on ne peut plus en parler.
Ben, si, justement,
donc,
j'en
donc
profite.
Donc j'essaye de te toucher.
Tours est en tête de son groupe de National 3.
Bon, t'as bien profité.
Bravo, bravo Tours. Ils ont battu l'étoile de Saint-Cyr.
Une sorte de revival et de boîte à souvenirs Tours en parlant de Koscielny.
Ouais.
Et j'ai envie de parler d'un autre ancien Tourangeau.
Andy Delors.
Dont on disait qu'il.
Banga.
Effectivement, il ne veut absolument pas revenir en France. Mais tu crois pas que Mercato d'hiver, à la place des dirigeants bordelais, je ferai en sorte de faire venir Giroud.
Ah, Giroud.
Retrouver son pote Koscielny, son cousin Costil.
Ah, évidemment.
Franchement, ce serait une. Et puis, non, mais surtout pour aller sur l'autoroute de l'Euro.
Bah, évidemment, il faut qu'il joue.
Comme Ben Yedder, bon, certes, c'est pas la même chose
oui, d'ailleurs,
comme ambition à Monaco.
Non, mais t'as raison.
Mais Ben Yedder va aller à l'Euro. Mais non, très probablement.
Mais bien sûr, mais tu sais qu'on te rappelle qu'on en a parlé, tu sais où on en a parlé.
Slimani, pavillon témoin, des mecs qui se mettent pas dans le moule, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs.
Absolument, bon. Absolument. Mais il
paraît qu'il veut pas remettre en lien, mais Bordeaux, ce serait une bonne idée pour lui.
À l'OM, on en a beaucoup parlé avant Benedetto.
Non, mais c'était pas la même chose.
Non, mais c'était une des pistes pour le retour en France.
Mais Bordeaux, pour Giroud, retrouver son pote Koscielny, ça pourrait être une bonne idée, moi.
Et puis c'est la place de Jimmy Briand, qui fait un bon début de saison.
Ouais, enfin bon, c'est à Giroud, tu comprends pas.
Il pourrait jouer sur le côté, et puis voilà, quoi.
Bon, on l'invite, mais bon.
Mais Giroud, c'est pas mal.
Faut qu'il joue, hein. Les drôles de la main arrivent dans quelques instants, mais d'abord, un point sur la Ligue de Lens au Serre, Jean Baumel.
Toujours 0-0, il reste 13 minutes, domination nette et sans bavure des Lensois, mais ça ne veut pas rentrer, en tout cas défensivement, ils sont bien les joueurs de Jean-Marc Furlan. Pour l'instant 0-0 dans ce dernier match de la 11e journée de Ligue 2, pour l'instant ça fait quand même 9 buts au total sur 10 matchs.
Pendant ce temps-là, Sheffield mène toujours à 0 face à Arsenal après 62 minutes, et puis en Italie, Brescia, Fiorentina 0-0 après 60 minutes.
Sheffield mène devant Arsenal.
Oui, tout à fait.
Arsenal, ils ont l'occasion d'être 3e tout seuls, et ils vont aller perdre à Sheffield, certes, qui est, même Liverpool avait ramé un peu là-bas. Mais
un but de Lys Mousset.
Ah oui, un joueur qui est un Français en fait.
Bah oui, tout à fait. Le Havre, exactement. Un jeune du Havre qui est.
De toute façon, jeune joueur français inconnu à l'étranger, quand tu sais pas, tu dis le Havre.
C'est vrai que le Havre,
oui, en général, ça tombe bien.
Dessus, ouais.
Et puis, des cadeaux. Dans l'after, on est comme ça. Ah. Cette semaine, on vous offre vos places pour un match de Coupe d'Europe.
Et c'est pas bientôt, là, l'arbre de Noël avec les boules et tout?
Ah, si, mais c'est en décembre, ça. Le grand jeu de Noël.
Encore en octobre, ça. Grand jeu de Noël.
Là, ce soir, on vous offre des places pour Saint-Etienne-Alexandria. Donc, c'est le match d'Europa League de jeudi soir à Geoffroy Guichard.
Ça attire pas les foules, Saint-Etienne-Alexandria.
Attends, les supporters de Vert, ils sont à bloc sur tous les matchs. Hein, que Alexandria,
ça commence comme
Le Real ou Amiens.
Jeudi à 19h.
Bah, et pourquoi pas. D'accord. En tout cas, pour gagner ces places, il suffit d'envoyer foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. Tentez votre chance dès maintenant. Et donc, vous pourrez gagner, pourquoi pas, vos places pour le match de Coupe d'Europe de Saint-Etienne qui sera sur RMC jeudi. Dans quelques instants, les drôles de l'âme. Attention, Fred Hermel tremble. Car. Il y a des rumeurs concernant Zinedine Zidane.
Ça faisait un mois que j'ai dit qu'il y avait un problème. Je vous ai tout raconté des rapports entre le président et lui. Ok, que Fred vienne confirmer, mais enfin, dites pas que je vous ai pas annoncé ça depuis très longtemps.
Deschamps tremble si tu réussis pas à l'Euro.
À tout de suite.
Zidane quitte
dans l'after pour tout savoir avec Fred.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo, Julien Cazard arrive dans une bonne demi-heure maintenant. Et les droits de la belle sont là. On les accueille juste après un retour par la Ligue 2. Lens au Serge Jean Bommel.
0-0, il reste 6 minutes à jouer. Lens pousse, mais Lens n'y arrive pas pour l'instant. Ils sont tenus en échec par les Auxerrois. Donc 0-0, encore 6 bonnes minutes à jouer.
Les droits de l'âme, c'est parti, jingle. Alors là, elle frétille, le drôle de dame. Pourquoi ? Parce que c'est le retour de la Ligue des Champions. Et oui, c'est leur moment, c'est leur semaine. C'est là qu'elle se régale, qu'elle met des tôles au club français.
C'est là où elles viennent à Paris.
Elles viennent à Paris, en plus.
Dorénavant, elles sont à Paris.
Et oui.
Les paillettes.
Elles profitent de la ville lumière.
Le Moulin Rouge.
Exactement. Notamment Fred Hermel, qui est là. Salut, Fredo.
Hola, chicos.
Les établissements de nuit.
Coquin. Oh, c'est plus que, c'est plus malin. Que ça a été.
Attention, nous avons également parmi nous Julien Laurence. Julien, bonsoir.
Salut à tous.
Et Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Lequel des quatre on imagine au Moulin Rouge?
J'ai dû y aller une fois dans ma prime jeunesse.
Ouais, Polo, allez.
Polo au Moulin Rouge.
J'attends les prochains.
Non, je suis allé à l'Alcazar, je m'en rappelle.
Attention, Polo,
pour mes 20 ans, j'ai eu le droit à l'Alcazar.
À l'Alcazar.
T'es allé à l'Alcazar.
Avec Julien?
Ouais.
Cazard.
Ça, c'est nul, vraiment.
Gilbert, des 4, tu imagines qui au Moulin Rouge, toi? Compliqué, quand même.
Moi, j'allais dans les boutiques à côté.
Plus compliqué, des 4 qui on imagine au cabaret chez Michou.
Fred. Ah, bon, j'adore ça.
Fred, bah oui.
Je crois que je suis déjà allé. Je suis pas sûr,
oui,
mais.
Oui, Fred.
Ouais.
C'est totalement
hermélien. C'est sympa. Quoi.
Bah oui. J'ai Régine aussi.
Bon, alors les gars,
attends, j'ai passé un nouvel an chez Régine, j'ai pas terminé.
Mimi la Tigresse.
Chez Mimi la Tigresse ?
Ça a vraiment existé, ça, non ?
Ouais, ça a existé, bien sûr. Ouais.
Au chien qui fume.
Peut-être pour l'eau.
Au chien qui fume, c'est un grand endroit des artistes, Picasso, etc.
C'est ça, exactement, c'est ça, Fred, je me rappelle plus.
Ouais, et c'était ça existe toujours, et en fait, ce sont les. Du style récit de Bruyant, en fait, les chansonniers, etc., des vieilles chansons.
C'est terrible dans ces endroits-là.
Frédéric Zermati qui chante Aznavour, par exemple.
Voilà, par exemple. Voilà.
C'est les. Ton porte-monnaie doit être bien garni quand même, quoi, parce que le nombre de billets qui sortent pour dire merci à tout le monde, c'est dingue.
Eh oui, que veux-tu ? Alors Fred, on va démarrer par toi, parce qu'évidemment, le meilleur entraîneur français du monde, du football...
Oh, de la galaxie et de tous les temps.
Et là,
Dieu,
attention, Fred a commandé sa musique. Jingle. Fredo, que se passe-t-il pour Zidane à Madrid ?
Alors, j'ai écouté, bien entendu, juste avant... que nous arrivions de les drôles de dames, l'intervention de l'ami Daniel. Il y a un mois, il n'était pas menacé, Daniel. Alors que là, il est vraiment menacé. C'est-à-dire que s'il perd demain à Istanbul contre Galatasaray, je pense que Zidane sera remercié dans les heures qui viennent. En tout cas, il y a une drôle d'ambiance autour de Zidane. Les gens à l'intérieur du club qui commencent à dire du mal. Zidane est au courant de tout, bien entendu. Ça l'énerve un petit peu.
Il l'a dit dans la conf quand même, c'est vrai, c'est l'entraîneur qui parle des rumeurs, il en a parlé.
Bonne analyse, parce que normalement il balait ça d'un revers de main, mais là il sait vraiment qu'il y a des gens qui disent du mal de lui. Il y a beaucoup de gens qui parlent, enfin il y a certaines personnes, vous savez, des gens qui aiment toujours caresser dans le sens du poil le président, au lieu de lui dire ne te précipite pas, fais attention, tu serais toi en première ligne après, ouais t'as raison, t'as vu, fais pas jouer les jeunes, ah bah si, fais jouer Vinicius, ouais non, bah enfin, mais non, pas ça, mais par exemple, tu vois Courtois, ouais mais Courtois, c'est pas, lui ne voulait pas, c'est non, mais pas ça, bah, tu vois ce que je veux dire, enfin bref, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et c'est vraiment la première fois, vraiment, vraiment la première fois, depuis que Zidane est entraîneur du Real Madrid, que j'entends dire des choses qui ont été dites sur Ancelotti, qui ont été dites sur Benitez, qui ont été dites sur Mourinho. Vous savez, dans les grands clubs, il y a des super coachs, il y a toujours un moment où il y a des gens qui disent du mal, hein, ça, il suffit de faire une défaite, un match nul. Donc là, Zidane est en train de manger son pain noir au Real Madrid, il est vraiment... oui, il est en danger.
Pourquoi avec, il est avec danger Mourinho en embuscade?
Ah bah oui, alors
ah bah oui.
Il fait un lobbying, mais il a un lobbying de truc. Dès qu'il y a une conférence à faire en Espagne, il vient. Salut, c'est moi. Voilà, non, fait vraiment là. Et puis on sait très bien, et on l'a toujours dit que Florentino Pérez a toujours gardé un très bon souvenir de Mourinho, même si Zidane a quand même gagné en 2 ans et demi 7 titres de plus que Mourinho en 3 ans, hein, parce que Mourinho gagne une Liga et une Copa, Zidane 3 Ligues des Champions, une Liga, Super Coupe d'Europe, 3 Champions du Monde. Enfin bref.
Comment t'expliques le revirement hors les rapports Florentino Pérez Zidane dont on a parlé, mais que des gens autour du club commencent comme ça
les résultats tout simplement. C'est tout con, mais il y a pas de patience au Real avec les résultats. Bah, d'ailleurs l'an dernier, la saison dernière, il y a quand même eu 3 entraîneurs. Il y a eu Lopetegui, il y a eu Solari et il y a eu Zidane. Donc à partir du moment où les résultats sont pas super, bon, le Real est deuxième à un point du Barça, de la Liga quand même.
C'est ça qui est...
Mais on continue de lui imputer ce qui s'est passé durant le mercato et le choix de mecs enfin tu vois, je sais pas, est-ce qu'on continue de lui dire t'as pris des remplaçants, en gros Jovic c'est remplaçant de Benzema, Ferland Mendy c'est remplaçant de Marcelo, comment il s'appelait le mec là qui jouait à gauche là, qu'ils ont fait partir là, qu'ils auraient pu garder plutôt que de prendre Mendy.
Mais Reguilón, c'est un jeune, il a été prêté.
Ouais, mais il y a pas mal de gens en Espagne qui.
Oui, bien sûr. Mais oui, parce que les gens connaissent pas le foot. Donc, Mendy, je peux t'assurer que
Mendy. Moi, je te dis ce qui se dit. Voilà.
Ouais, bien sûr. Non, bien sûr, mais tu as raison.
Il y a beaucoup qui parlent de ça.
C'est plus qu'un remplaçant. Demain soir, il sera titulaire. Parce que c'est un match décisif et il va vouloir se protéger.
Et la jeune classe des Madrilènes qui s'est un peu. Bon, tu me diras qu'Asensio est blessé.
Asensio est blessé.
Mais l'année dernière, il était déjà perdu. Il a complètement vrillé. Il sortait énormément.
Bah, tout le temps.
Il partait pareil, puis il rentrait même plus tard que Verratti, grande époque.
Ouais, mais ça, c'est clair.
Maintenant, il s'est beaucoup calmé, Verratti.
Et puis, franchement.
Sans parler d'Isco.
Ah bah Isco, il est perdu pour le football. Enfin, c'est.
Mais ce genre de choses là, on met ça sur le dos de qui? Ces mecs là étaient perdus comme ça parce que c'était quand
Zidane
même des super joueurs.
Hein, ils étaient pas là. Hein. Zidane n'était plus là la saison dernière hein, quand ces mecs là se sont perdus. Donc, parce qu'on se souvient quand même qu'avec Zidane, Isco par exemple était en finale de la Ligue des Champions. Hein, il était titulaire devant Bale. Hein,
mais toi, Liverpool. Tu veux dire que avec Zidane, ça aurait pu marcher. Il est dans la capacité de relancer Asensio par exemple.
Ah bah Asensio. Enfin,
oui, mais là, si tu penses que s'il était là.
Oui, bah, avec Zidane, ça marchait.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est lui qui l'a découvert plus ou moins. Donc.
Un truc sur la conf de presse, Fred, parce que toi, tu l'as, t'y as assisté, évidemment. Il y a un passage qui me paraît aussi très fort et très. Enfin, typique un peu du Zidane qu'on a appris à connaître en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est comme une énorme force de caractère parce qu'il dit qu'il aime bien ce moment-là, ce moment de la mise à mort, ça le chauffe.
Mais est-ce qu'il a envie vraiment de s'accrocher au bout ou c'est parce que Zidane a tellement tout le temps eu l'habitude d'être aimé que de sentir un peu de désamour, c'est pas assez nouveau pour lui.
Moi, je n'écarte pas le fait qu'il soit lui qui claque la porte. Hein. Il l'a déjà fait. Hein. C'est-à-dire que s'il se sent vraiment trahi.
Parce que lui, il aime pas ça, il est pas habitué à ça. C'est un gars qui a toujours eu de l'amour autour de lui. Sentir que d'un coup.
Tant d'amour autour de lui.
Zidane, c'est quand même vrai.
Mais ça, Daniel, c'est intéressant. Ça, c'était vrai quand il était joueur.
Quand
t'es entraîneur, tu rentres dans la politique. Non, mais Fred te le dira, mais là, il a raison. Non. Dès que ça va un peu moins bien, t'en prends plein la gueule. Il a appris à gérer avec un des clubs les plus compliqués au monde.
Un nul, il en prend plein la gueule. Donc voilà. Donc en fait, mais ce qui est énervant, c'est que les dirigeants du Real sont apeurés parce que ça fait un moment qu'ils ne gagnent plus et que on essaye de charger la mule, quoi. Et la mule, c'est Zidane.
Maintenant,
on essaie de se dédouaner.
Maintenant que tu nous as fait cette photographie, le match de demain, donc Galatasaray qui va quand même vachement mieux. Ils ont remonté au championnat. Donc,
dans le contexte pour le Real, c'est chaud.
C'est là-bas c'est évidemment. Galatasaray qui
sur un 2-2 contre Bruges.
Les deux clubs ont un point. Donc Galatasaray doit absolument gagner aussi pour rester en vie.
Si le Real gagne champion, Turquie, le Real est pas super bien embarqué. Hein.
Non, si le Real et surtout s'il perd,
c'est très compliqué pour la qualif.
Et donc ça veut dire, et pour le Real, mais la honte, mais c'est des mots qu'on m'a dit de l'intérieur du club, ce serait la honte de jouer la Ligue Europa, quoi. Mais la honte.
Tiens, alors, donc, Fred, ok, mais alors maintenant, imaginons que le Real gagne à Galatasaray. Est-ce que lors du prochain match de Liga, la situation sera toujours la même? Ou est-ce que ça lui offre un répit au moins de 15 jours?
Non, c'est plus qu'un répit, c'est que ce club est passionnant. Mais il est énervant aussi, c'est parce que ça monte et ça descend comme ça. Demain soir, Zidane, c'est peut-être le meilleur entraîneur du monde. Hein. Tu sais, s'il gagne 3-0 facile, etc. Nana. Vous savez, il y avait le sentiment au sein du staff qu'il y avait peut-être un risque 3 jours après le PSG quand ils vont jouer à Séville. Les mecs qui font un match excellent, ils gagnent 1-0. C'est Séville qui était leader à l'époque et c'était de nouveau tout rose pour Real, pour Zidane et pour le Real. Donc c'est vraiment du match après match et on peut jamais tirer de conclusion. Moi la seule nouveauté, c'est qu'il y a vraiment l'épée de Damoclès et qu'en cas de défaite, il est sûrement dehors. Ça c'est vraiment quelque chose qui n'était pas là avant. Mais parce que le Real, s'il perd, est dehors de la Ligue des Champions. Donc son entraîneur serait en dehors.
Non, le Real n'est pas dehors. C'est dur, parce que si le PSG gagne, il n'est pas dehors. Mais enfin.
Si Bruges gagne, ouais. PSG, t'imagines, si c'est dans lequel Real.
Ça veut dire qu'ils ont 3 points de retard sur Galatasaray. Parce que, ou alors, faudrait que Bruges gagne aussi face au PSG.
Mais t'imagines, si Bruges et Galatasaray gagnent, t'as le PSG qui a 6 points, t'as Bruges qui a 5 points, t'as Galatasaray qui a 3 et le Real a 1 point. À la moitié,
il y a 4.
Ouais, tu vois, donc tout ça est quand même un peu dangereux. Après, sérieusement, outre le discours de Ramos en conf de presse, moi, les infos que j'ai du vestiaire, c'est qu'ils sont à mort avec le coach. Vraiment. Mmh. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils adorent Zidane et qu'ils croient en lui vraiment. Et l'autre aussi, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir Mourinho.
Tu vois. Donc, alors, avant de continuer, c'est fini en Ligue 2, Jean Baumel, entre Lens et Auxerre.
Ouais, 0-0, Lens qui a sa série de 4 victoires consécutives stoppées. Mais bon, voilà, c'est un point de prix. Généralement, quand il y avait un bon coup à faire, Lens perdait. Là, un point, et pour Auxerre, forcément, ils sont très contents, parce que eux, ils ont été venus, justement, pour ne pas trop jouer. 0-0, score logique, Lens qui reste forcément deuxième à 3 points de Lorient.
Merci, Jimo, bonne soirée. Sur Zidane, on a fait le tour, les gars.
Ouais.
On passe à la suite. Très bien. Alors, tiens, Simone Rovera nous a rejoint. Simone, bonsoir.
Ciao, bonsoir.
Salut, Simone.
Salut, Simone.
Alors, petit tour d'Europe. Donc, on a bien compris le match le plus important de la semaine en Ligue des Champions en Espagne, c'est le Real à Galatasaray. Quel est le match le plus important de la semaine en Angleterre en Ligue des Champions, Julien?
Alors, ce sera sûrement pour Tottenham, Gilbert, qui traverse une période assez compliquée. On l'a vu encore en championnat samedi contre Watford à domicile, où ils s'en sortent en faisant un partout avec un but de Dele Alli en fin de match, alors que la VAR leur a sauvé un petit peu la mise, puisqu'il aurait dû avoir un pénalty pour Watford quand Watford menait 1-0, et qui n'a pas été accordé par la VAR et par l'arbitre de la rencontre. Ils reçoivent l'étoile rouge de Belgrade mardi soir, donc au Tottenham Stadium. Si tu gagnes pas là, je pense que on rentre vraiment dans la crise et Pochettino, même s'il restera en place, parce qu'ils vont pas virer Pochettino, mais ça deviendra de plus en plus compliqué pour les joueurs.
Tu crois qu'il est pas du tout menacé,
Pochettino? J'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. Parce que, un, je vois pas qui pourrait le remplacer déjà, depuis qu'Allegri a dit qu'en plus il reprendrait pas un club en cours de saison saison.
On parle pas du tout de Laurent Blanc?
On parle pas du tout de Laurent Blanc, non, même si Serge Aurier sûrement serait ravi de voir Laurent Blanc débarquer à Tottenham. Non,
pardon, mais c'est comme Jean-Louis Gasset a poussé une gueulante là, comme quoi on manquait beaucoup de respect à Laurent Blanc et tout. Je me disais qu'en Angleterre on se comportait mieux et qu'on lui manquait pas de respect, qu'on pensait à lui.
C'est vrai, on lui manque tellement pas de respect qu'on n'en parle pas du tout. Pour être honnête avec toi, donc, comme ça c'est plus simple, qui est une forme de respect en soi.
Effectivement.
Même à Manchester United.
À Manchester, ouais. C'est son club, la place est chaude depuis très longtemps. On sait que ça viendra, ça va finir peut-être.
Elle lui a réservé, mais
ça viendra, c'est réservé. Manchester, c'est réservé.
Mais sinon, le Ajax-Chelsea, qui bizarrement ne se sont jamais rencontrés dans l'histoire des Coupes d'Europe, qui devrait être un match vraiment, vraiment intéressant et sympa à suivre entre deux équipes très offensives et Chelsea qui est dans une bonne période en ce moment avec les victoires qui s'enchaînent, les jeunes qui jouent de mieux en mieux et cette équipe de l'Ajax qui est toujours aussi belle à voir jouer. Donc pour moi, c'est ces deux matchs-là pour deux raisons différentes, plus que le Manchester City-Atalanta qui pourrait aussi être très spectaculaire et très attrayant à voir, et plus bien sûr que le déplacement de Liverpool à Genk.
En Allemagne, quel est le match important à suivre en Coupe d'Europe cette semaine, Polo?
Ah bah c'est très compliqué de répondre à ta question, parce que j'ai envie de dire les quatre ou aucun. C'est-à-dire que le Fred a dit quelque chose de très important pour le Real Madrid. J'ai envie de parler du Bayern Munich, où théoriquement le déplacement de l'Olympiakos c'est pas le plus important, sauf qu'il y a une hystérie complètement dingue autour du Bayern Munich et des deux points encore lâchés ce week-end dans le derby bavarois contre Augsbourg, avec notamment un but encaissé dès la première minute et un but encaissé à la 91e. Et le Bayern Munich phagocyte l'ensemble, quasiment 80% de l'actualité médiatique en Allemagne. Alors qu'il y avait un super match entre Dortmund et Mönchengladbach. Donc, si tu veux.
Le leader, Mönchengladbach, dis donc.
Mais toujours leader. Et en plus, j'ai envie de dire, il n'y a aucun perdant, en fait, du match contre Dortmund, parce que Mönchengladbach a joué avec Marco Rose, évidemment, son nouveau coach, disciple de Jürgen Klopp, quasiment à égalité au niveau du jeu avec le Borussia Dortmund, qui avait quand même un effectif un peu supérieur. Mais pour revenir au Bayern Munich, si tu le permets, Daniel, ça fait quand même le quatrième match consécutif que le Bayern encaisse 2 buts. Les Français, Hernandez, Pavard, je suis désolé, mais enfin, en ce moment, ils sont pas du tout au niveau. En tout cas, leur intégration est complexe.
Même Hernandez.
Ah ben Hernandez, c'est pas bon. Sur l'égalisation, il est complètement coupable. Il se fait complètement déboîter par l'attaquant Cordova d'Augsbourg. Et le placement de Pavard, aussi bien sur le premier que sur le second but, est catastrophique. Mais ça, c'est depuis le début de la saison. Ce qui est intéressant, n'oubliez pas, Niklas Süle s'est fait les croisés aussi. On sait même pas s'il va jouer le championnat d'Europe 2020. Vous avez évidemment Lyonnais.
J'ai même lu que Lyonnais disait qu'il ne jouerait pas. Je sais pas si
ouais, mais Mataos, il y a 10 minutes, disait qu'il jouera peut-être pour 2018. On ne sait pas trop s'il sera là.
Ah, Mataos, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé.
Et tout, si tu veux, on est dans une ambiance en ce moment.
Un petit peu.
Lodard. Le Panzer, comme on dit en Italie.
Qui a quand même le baffe de Lisa.
Oui, de Lisa. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment de l'hystérie pure qu'on a autour de ce club. On retrouve évidemment toutes les critiques à l'encontre de Niko Kovac, qui a fait une erreur stratégique en s'excusant des paroles qu'il a eues contre Thomas Müller quand t'es en Bavière. Tu es à Munich, tu ne t'excuses pas. Je suis désolé. Ça a été souligné comme un point de faiblesse du coach. Quoi.
Globalement, tu t'excuses pas.
Ouais.
En gros, tu t'excuses pas parce que. Ben oui, mais c'est le mia sans mia. C'est nous sommes qui nous sommes. Quoi. Nous sommes là pour gagner les 50 matchs de l'année et mettre 3-0 à tout le monde. Et voilà, donc dès que tu commences à montrer un petit peu de faiblesse, mais y compris dans la communication, lorsque Niko Kovac dit après la défaite à Hoffenheim, bah finalement on aurait pu vivre avec un 2-2, les Bavarois ils comprennent pas, ils disent mais qu'est-ce que tu nous fais là, t'es à Munich, là t'es pas dans un club amateur. Toutes ces choses-là font que ça ne va pas en ce moment. Rappelons quand même que Niklas Süle, c'est aujourd'hui le patron de la défense centrale, qu'il est plus là, qu'on sait pas trop comment ça va se passer. Évidemment, où Lyonnais sort du bois pour dire, ah bah, c'est pas grave, il y a Martinez qui doit jouer, etc. Donc, on va remettre Kimmich à droite. Pavard va passer en défense centrale. Alaba, qui était blessé, est forcé de rentrer après 10 minutes. On sait pas trop comment tout ça va donner. Et donc, en fait, tu as tous les problèmes depuis le début de saison, dont on a souvent parlé, qui se focalisent évidemment sur Niko Kovac. Vous avez même un coach qui s'appelle Friedhelm Funkel, qui est le coach de Düsseldorf, qui a allumé Kovac en faisant comprendre qu'en gros, il était surcoté. C'est quand même assez intéressant ce qui se passe en ce moment. Je voudrais juste rappeler, par exemple, qu'il y a un Thomas Wagner, que vous ne connaissez pas, qui est un journaliste allemand, qui a allumé Rummenigge, parce que Rummenigge, évidemment, en conférence, lorsqu'il avait présenté Hernandez, il avait dit que c'était le meilleur défenseur de Bundesliga, ce qui fait aujourd'hui rigoler toute l'Allemagne en entier.
Alors, dans quelques instants, Simone nous dira quels sont les matchs à suivre en Italie. On fera également un point sur vos championnats respectifs. Alors, la Bundesliga, elle est serrée comme jamais. Hein. Comme la Ligue 1. Alors, en Ligue 1, on dit que c'est nul. Alors, est-ce qu'en Bundesliga, on dit que c'est nul? Polo nous dira ça dans quelques minutes. Oui, c'est vrai que la Ligue 1 aussi. C'est vrai que c'est serré presque partout. Là. Bon, l'Italie, c'est comme d'hab.
Heureusement. Au début de la saison, si c'est pas serré maintenant, c'est quand?
C'est vrai.
Dans deux mois, la Juve aura 15 points d'avance.
Ouais, bah profite, Simone. En tout cas, on se retrouve tout de suite. Et si vous avez des questions à poser au drôle de l'âme, profitez-en. C'est tout de suite, c'est maintenant. 32-16, Max vous attend. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, 21h30. L'after foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, les drôles de l'âme sont toutes là, bien sûr, pour leur semaine européenne, évidemment. Alors, on a fait un petit tour, sauf l'Italie. Donc, Simone, quelles sont tes affiches de la semaine, ou même l'affiche de la semaine en Coupe d'Europe?
Bah, l'affiche est un peu partagée pour l'instant, peut-être aussi parce que c'est dément. En Italie, on parle énormément de match de l'Atalanta face à Manchester, un peu parce que c'est un spectacle toujours à l'Atalanta, sauf en Ligue des Champions, même si c'est aujourd'hui leur passif, c'est très lourd, c'est-à-dire deux défaites, mais avec du beau jeu, surtout face à Shakhtar qui n'a amené rien, malheureusement. C'est les matchs entre les meilleures attaques de la Serie A, les meilleures attaques de la Première Ligue, et en plus, il y a cette cote qui monte toujours de Gasperini sur la facilité avec laquelle l'Atalanta joue, le spectacle.
Mais est-ce qu'il a cherché à expliquer pourquoi en Ligue des Champions, il s'était pris deux tartes et que ça n'avait pas collé?
Bah, la deuxième tarte, en vrai, c'est vraiment, on peut dire, l'absurde du football, parce que l'Atalanta fait, je pense, 17 occasions, il frappe plein de fois au but, rate un penalty, et Shakhtar marque de but presque sur les deux occasions qu'il a. C'est un match vraiment bien joué et presque dominé de l'Atalanta qui n'arrive pas à faire des points. Après, comme c'est les derniers espoirs pour l'Atalanta pour vraiment faire quelque chose dans cette Ligue des Champions, vu vu que Manchester parfois dans la phase des poules s'endort un peu, pourquoi pas rêver. Et en Italie, on considère vraiment que l'Atalanta peut aller faire un match intéressant, mettre en difficulté Manchester, et on la vend bien. Aujourd'hui, Guardiola, il a dit c'est la joie à voir jouer l'Atalanta. Un peu, bon, on sait très bien que entre les entraîneurs, il s'aime beaucoup. Et Guardiola, c'est quelqu'un qui parle toujours bien des entraîneurs, surtout en Italie. Il parlait bien de ça.
Et souvent, quand Guardiola et ses équipes croisent des équipes qui jouent bien, ça finit souvent à son avantage et en raclée.
Oui,
comme Napoli, contre Napoli d'ailleurs.
Avec Napoli, c'était deux victoires, mais c'était 2-1, je pense. Et avec Napoli, qui avait quand même eu des bonnes phases des jeux. Après, aller battre Manchester City, il faut pas un miracle, il faut deux dans les mêmes matchs. Donc,
il faut s'appeler Lyon.
On sait très bien qu'il s'appelle Lyon, mais l'Atalanta s'appelle pas Lyon.
Mais
pour l'instant, on parle vraiment beaucoup de ce match. Beaucoup. J'ai l'impression que si c'était pas pour Ronaldo et qu'aujourd'hui était en conférence de presse, on parle presque plus de Manchester-Atalanta que du match de la Juve. Et après, mercredi, là aussi, c'est le dernier appel pour l'Inter face au Borussia Dortmund. On sait très bien que c'était déjà compliqué au début pour l'Inter dans ce match, qui sort sur un match à deux visages en championnat, 4 buts marqués, 3-1 cassés, et une finale de match où, après avoir mené 4-1, ils ont risqué de se faire rattraper. Et Antonio Conte, il était furieux. On va voir si en Ligue des Champions, l'Inter va continuer à chercher de faire des points, va chercher finalement de gagner un match et de rentrer un peu dans l'ordre de jouer à la qualification, ou si, comme on imaginait depuis le début, la Ligue des Champions, c'est presque une...
secondaire.
Oui, c'est presque un accident de parcours sur en route qui doit mener l'Inter le plus loin possible à jouer les titres avec la Juve, même si je me rends compte qu'il y a aujourd'hui une différence énorme. L'Inter a 12-13 bons joueurs, peut-être 12 plus 12 que 13. Et si tu as 2-3 absents de top niveau, l'Inter sera très très loin de l'Inter, de la Juve dans la saison. Alors, ça me semble toujours plus clair. Ça.
Sur la Juve, un mot quand même, parce que Cristiano dit aujourd'hui je suis très content de l'arrivée de Sarri, on joue plus offensif.
Bah, il dit on joue mieux, on est content, on a plein d'occasions, malheureusement pour l'instant on marque pas, et c'est vrai, la Juve fait plus d'occasions mais n'arrive moins à marquer. Sarri s'est préoccupé de ça en disant avec les attaquants que j'ai aujourd'hui, il marque pas, mais demain si on continue à créer autant d'occasions, on va marquer. Mais la chose qui pour moi c'est extraordinaire, c'est que pratiquement on le savait déjà que Cristiano n'était pas vraiment fan d'Allegri pour la façon de jouer, pour le style trop défensif, mais aujourd'hui il dit on est mieux, on joue mieux, on s'amuse, pratiquement il enterre Allegri en disant finalement ça est arrivé. C'est, si on peut lire entre les lignes, il n'y a pas vraiment besoin, parce qu'il est toujours très très clair Cristiano Ronaldo, même quand il met une tacle à la Juve, pour moi quand il dit la Juve c'est un grand club, doit penser grand. Un peu comme à dire, on ne doit pas seulement espérer de gagner la Ligue des Champions, on ne doit pas rêver. Nous, on est un grand club, nous, on doit penser de gagner la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on a vu un Cristiano vraiment prendre, pas seulement la parole, prendre la une de la Juve, devenir la Juve. Et je pense que ça fait vraiment du bien au monde de Juve d'avoir Cristiano qui parle. Parce que c'est extraordinaire. Vraiment, moi, je suis tombé sous les charmes de Cristiano, encore plus de le avoir entendu que de le voir vu jouer, parce que j'ai vu vraiment prendre les contrôles de la Juve et donner 2-3 punchlines très intéressants. Comment il ferme la porte de l'époque Allegri, je pense que pourrait être très bien, très positif pour le monde Juve. Ouais. Il pourrait faire changer d'avis à plusieurs
supporters. C'est dans cette interview qu'il a dit à quel point il était heureux d'avoir la chance de jouer avec Rabiot ou pas.
Il parle bien de Rabiot, il parle bien quand même. Hein. Il dit que les travails qu'ils font
son match
lui,
de ce week-end,
Rabiot,
je sais pas, c'était quoi, 8 sur 10, il a eu comme note un peu dans tous les médias, Rabiot.
Non, elle a été suffisante. Il a eu la note suffisante. Globalement, il a eu presque toutes les notes suffisantes sur tous les quotidiens. Ouais. Je pense qu'il y a
c'est
eu.
La moyenne suffisante, ça veut dire que c'est la moyenne en France.
Oui, 6, c'est la moyenne.
On peut pas dire qu'il est totalement convaincu. Hein.
Bah, tu sais que Sarri continue à parler bien de Rabiot. Hein. Ah bah, aujourd'hui
tu veux
encore.
Tu veux dire on a recruté un tocard ? Il ne va pas dire ça, voyons.
Il continue à dire qu'il progresse. Il continue à progresser, il va devenir important.
Daniel, il a un début de saison compliqué. Il est titulaire avec la Juve. Tu ne peux pas dire qu'il a été renvoyé aux oubliettes, la Rabiot.
Titulaire.
Non, mais si, il a joué là.
Mais non, il a joué ce week-end.
Il a fait trois matchs titulaires.
Ce que je veux te dire, c'est que.
Il est largement au placard.
Ce que je veux te dire là, il est titulaire ce coup-là.
C'est pas au placard. Il a fait trois matchs titulaires déjà.
Tu mets pas un joueur titulaire à la Juve. Enfin là, je te parle de ce match-là. Tu le mets pas si vraiment il est bidon.
Il est titulaire dans le match qui précède le mardi de Ligue 1.
D'accord. Mais je suis d'accord. Non, mais là, t'as. Non, mais t'es injuste parce qu'il arrive. Mais il arrive dans un nouveau club. Il a du mal à se faire une place. Il joue, il a effectivement la moyenne et tu dis, il est toujours aussi bidon. Je veux dire, Rabiot n'est pas un joueur bidon. Oui, sans doute, mais il n'est pas encore intégré.
On rigole et il y avait même des blagues qui circulaient. Je veux dire, il va moins vite qu'un papy.
Non, mais ça, c'est injuste. Non, mais c'est injuste de faire un procès à Rabiot. Si, quand on l'aura vu jouer 10, 15 matchs, 18 matchs et que tu verras qu'il n'est pas bon, ok. Mais tu ne peux pas dire là, alors qu'il n'a pas eu la chance de jouer ou de ne pas jouer. Non, mais tu ne peux pas dire Rabiot, il est bidon et tout le monde rigole. Je suis désolé, ça le fait jouer.
Les seuls joueurs titulaires qui arrivaient cet été à la Juve, c'est De Ligt et c'est parce que Chiellini s'est fait les croiser. Je continue à le dire. Higuain, c'est pas une nouvelle recrue, mais on les connaît.
Oui, mais Higuain,
il y a Bernardeschi, Pjanic, Kedira, Matuidi, Bonucci, D'Alessandro et à droite joue Cuadrado. C'est la même Juve d'Allegri qui joue dans une autre façon. Et si on doit s'intégrer dans cette Juve, il faut du temps pour tous.
Messieurs, dans quelques instants, on va parler de vos championnats respectifs, bien sûr, en Espagne. En Espagne, faut à Toulouse, un mot de Mallorca d'ailleurs. Je vais parler de Mallorca, moi. Ce sera dans quelques instants, mais tu vas faire le point sur le championnat.
Il est en train de préparer un week-end là-bas.
Non, pas spécialement, mais il y a des trucs à raconter. Je pense
que c'est un petit peu
ce club. Mönchengladbach, bien sûr.
Mönchengladbach, week-end, ça te dit?
Pour un match de foot, ouais, j'aimerais bien aller voir un match de foot à Mönchengladbach.
Bah, à Mallorca ou à Mönchengladbach, t'as des Allemands.
Surtout à Mallorca, en culotte de peau à Mönchengladbach.
Sans oublier le championnat anglais vous me déstabilisez là, j'ai du mal à vous suivre. Manchester United, parce qu'on a Aboudé qui veut intervenir, qui veut poser des questions à Julien sur Solskjaer.
On a le futur neuf quand même des Bleus à Mönchengladbach. Hein.
Fais gaffe parce que Polo n'est pas fan.
Non, parce que lui n'est pas fan de Thuram. Mais il y a Plair.
Ah, c'est Plair, tu pensais à Plair.
C'est Plair qui a été appelé avec les Bleus récemment. Ouais.
C'est fini entre Sheffield et Arsenal, Julien.
Oui, malheureusement pour Arsenal, c'est fini. Une défaite 1-0. Je sais pas comment ils perdent un match comme ça. Sincèrement, Sheffield a deux tirs cadrés, dont le but qui est sur un coup de pied arrêté, un corner, où ils dorment un petit peu les Gunners défensivement. C'est assez incroyable. Tant qu'ils ne gagneront pas ces matchs-là à l'extérieur, tant qu'ils continueront à prendre des buts comme ça, ils pourront pas finir dans le top 4, ils pourront pas progresser, ils pourront pas, je sais pas si c'est plus la faute d'Emery, plus que les joueurs, etc. Mais c'est assez incroyable de perdre des matchs pareils contre des équipes pareilles.
Et puis, temps additionnel entre Brescia et la Fiorentina, Ribéry est sorti à la 87e, 0-0, Balotelli sur le terrain.
Il est rentré en deuxième mi-temps.
Mais toujours 0-0.
Il y a un but annulé au Français Florian Ayer, qui avait marqué un but.
Il est toujours pas prêt, lui, pour faire juste une entrée. Il est toujours pas prêt à démarrer.
Balotelli, qu'on m'a parlé des soucis au genou pendant cette semaine, il s'est entraîné pas au top, il a eu deux journées où il s'est pas entraîné, donc
on est fin octobre, il démarre toujours pas les matchs alors.
Après, il a encore un peu de pépins physiques.
Ouais. Allez, à tout de suite pour les championnats, donc avec les droits de l'âme et Julien Cazard qui nous rejoint dans quelques secondes. C'est l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, 21h minuit. L'after foot.
Looking for some inspiration for your next holiday? How about visiting an authentic tea house in China? Going on a safari in South Africa? Or visiting the ancient ruins of Mexico? Wherever you choose, KLM will take you there. Find great value fares via Amsterdam at klm.com.